vie de DG, une émission proposée par le CEDAP, le Centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présenté par Hervé Gasto sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, je suis Hervé Gasto, directeur général de l'INTEC et président du CEDAP. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission qui donne la parole à ces hommes, à ces femmes si peu connus de métier de délégué général, de directeur général, de secrétaire général. Aujourd'hui, nous accueillons deux nouveaux invités. Florence Pradier, qui est directrice générale de la coopérative agricole. Bonjour Florence.
Bonjour.
Et Thibaut Buissonnière, qui est directeur adjoint. Alors attendez, je reprends ma respiration. Directeur adjoint de la communication et des relations extérieures en charge des affaires publiques de la coopération agricole. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Bienvenue à vous deux. Bienvenue et je vous souhaite encore la bienvenue. Merci Florence de vous présenter en quelques mots.
Ouais, bonjour Hervé, merci pour cette invitation. Donc Florence Pradier, je dirige depuis un peu plus de 3 ans cette fédération qui s'appelle la coopération agricole. Et j'ai un parcours d'une 15aine d'années dans les organisations professionnelles.
Merci. Pouvez-vous nous parler un peu justement de votre association professionnelle ?
Oui, alors la coopération agricole, donc c'est une confédération qui est composée de 84 collaborateurs, donc grosse organisation professionnelle, qui représente quasiment la totalité des coopératives agricoles qui sont implantées dans les territoires. Une coopérative agricole, c'est une entreprise avec un statut particulier qui appartient aux agriculteurs. Et sa mission, sa fonction à cette entreprise-là, c'est de collecter, transformer et mettre en vente en fait des produits alimentaires. Donc, ce sont des coopératives et des entreprises très très implantées dans les territoires, pardon.
D'accord.
Et donc, nous avons un réseau d'associations aussi qui sont implantées, qui sont les relais finalement de la coopération agricole dans les régions. Donc on a la coopération agricole Grand Est, Grand Ouest, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France, Île-de-France, etc. Nous sommes la seule association du secteur agro qui représente l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc on va aussi bien sur des productions peu transformées, sur des productions très transformées. Et puis, je dirais, ces entreprises-là sont des entreprises de toute taille, 93% de PME, mais on a aussi des très grands groupes coopératifs avec plus de 20 000 adhérents sociétaires, donc agriculteurs, qui détiennent donc des parts de ces entreprises et qui sont majoritaires dans ces entreprises.
Merci Florence. Et justement, dans votre environnement professionnel, quels sont les sujets d'actualité ? On parle beaucoup de la canicule en ce moment et de la sécheresse. Est-ce que vous êtes indirectement impacté ?
Alors, évidemment, toutes les questions liées au changement climatique sont des questions qui viennent toucher en premier lieu, en fait, la production agricole. Le monde du vivant, il est très sensible à ces aléas et à ces variations. Et donc, si ces sujets-là, ou en tout cas notre sujet, nous, de préoccupation numéro un, c'est le maintien de notre capacité à produire en France. C'est pas un non-sujet, c'est un énorme sujet. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il y a le défi du changement climatique, il y a le défi de la planification écologique, parce que le monde agricole est le seul secteur dans lequel, qui a cette capacité à stocker du carbone, hein, donc à être un vrai puits de carbone, donc à être une solution. Et non pas, non pas être un problème. Hein. C'est vraiment, à mon sens, la solution passera par l'agriculture. Évidemment, pour qu'on puisse continuer à produire, il faut qu'on dispose de ressources comme l'eau, comme l'énergie, qui sont des ressources qui sont sous tension aujourd'hui avec les problématiques climatiques. Et puis, il y a aussi, au travers de maintien de cette capacité à produire, l'acceptation et les sujets qui sont liés au prix de l'alimentation, qui sont très prégnants aujourd'hui, hein, puisqu'on voit que la crise sur l'eau, sur l'énergie, a généré une inflation assez importante, en tout cas jamais vue depuis une 15aine d'années. Et évidemment, la capacité pour le consommateur de redonner un peu de valeur à son alimentation et à notre agriculture, c'est un élément clé du maintien de notre capacité à produire dans nos territoires.
Merci Florence. Je pense qu'on a bien compris les enjeux qui sont importants pour notre pays. On va revenir un peu maintenant sur votre mission de directrice générale. Justement, quelles sont pour vous les missions d'une directrice générale d'une organisation professionnelle et quelles en sont les qualités ?
Alors, peut-être la première mission, en tout cas celle qui me paraît importante, c'est celle d'avoir une capacité d'impulsion. Quand on est dans une association professionnelle, Évidemment, il y a beaucoup de choses. On travaille avec du collectif. Et le collectif est assez exigeant. Il peut être doué, en tout cas doté de pas mal d'inertie. Parce que les gens ne sont pas d'accord, parce que la fabrique de consensus prend du temps. Et donc, la capacité à impulser, pour moi, c'est un élément majeur, en tout cas dans la mission d'un directeur ou d'un délégué d'association professionnelle. Il y a une deuxième qualité, je pense, ou une deuxième mission, mission, qui est celle d'être capable de déployer des objectifs politiques qui ont été fixés par un conseil d'administration. Et donc, ça veut dire...
De façon mettre opérationnelle.
Exactement. C'est-à-dire mettre les mains dans le cambouis. Le cambouis n'est pas forcément le bon terme, mais Hervé... mais en tout cas, être capable de se mettre vraiment dans les sujets très opérationnels pour atteindre des objectifs politique fixée par un conseil d'administration. Et puis, il y a un troisième point que moi, je vois bien au niveau de la coopération agricole. Alors, évidemment, on ne travaille pas seul. Beaucoup d'associations disposent de quelques collaborateurs. Il faut aussi qu'on soit capable d'encourager parce que ce sont des métiers qui sont difficiles. Le collectif est plus exigeant que l'individuel, bien sûr. Et donc, encourager ses équipes, c'est aussi une mission, ou être capable d'encourager ses équipes de reconnaître en fait le travail qu'ils font, l'engagement qu'ils peuvent avoir, parce que c'est très exigeant le collectif. Je l'ai déjà dit, mais oui. C'est vraiment un point qu'il faut avoir en tête quand on est directeur d'une association professionnelle. Être capable de créer des collectifs, d'encourager ses équipes, c'est aussi une nécessité. Parce que sans ses collaborateurs, une association ne vaut rien. Donc trois missions principales à mon sens. Et peut-être sur des qualités, tu m'as posé cette question-là, Hervé, déjà. Je pense qu'une des qualités premières, une association professionnelle récupère beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'on remonte souvent des problèmes. Il faut être capable de convertir les problèmes en opportunités. Et ça, pour moi, c'est une vraie qualité qu'un directeur doit avoir. C'est voir que derrière tout problème, comme disait Churchill, il se cache une opportunité, et faire de tout problème une opportunité. Ça, c'est la première qualité. Les autres qualités, je trouve, qu'il faut avoir sont évidemment des qualités d'exigence, de bienveillance. Ça, c'est parce qu'il faut être capable d'écouter. Et puis, pour rebondir sur la partie impulsion,
oui.
Il faut avoir un peu d'imagination. Parce que ouais. Être capable de montrer ou de porter des sujets qui sont devant pour aligner un collectif, soit les gens se crispent sur un sujet d'actualité, mais si vous êtes capable de sortir un peu de ces sujets de crispation et d'aller de l'avant avec des projets qui sont pertinents, un peu de vision prospective, on arrive souvent à faire fonctionner un collectif avec ces impulsions-là.
Comme on le disait en fait dans les précédentes émissions, le directeur général ou la directrice générale est un peu le trait d'union entre des élus, en fait une équipe, et avec toutes ces composantes que vous avez très bien exprimées. Pour quelles raisons justement vous avez souhaité devenir directrice générale d'une association professionnelle ?
Alors, en ce qui me concerne, c'est plutôt un peu
le hasard.
C'est un peu, le hasard ou la chance, on va dire ça comme ça. Je le prends plutôt comme étant une chance. Mais j'ai postulé un jour, sans vraiment savoir ce qu'était ce métier-là.
Vous venez de quel secteur ?
Moi, je viens du secteur agro.
D'accord.
J'ai un parcours où je suis plutôt ingénieur. Je venais du monde du service.
D'accord.
Et un jour, j'ai postulé sur un poste de direction qualité, puisque c'était un peu ma valence, qualité-réglementation. Et lors de ce recrutement, on m'a proposé de prendre la direction générale d'une association qui s'appelle l'Alliance 7. et qui pose sur lesquels je m'étais pas du tout positionnée au départ. Et donc j'y suis un petit peu arrivée, je suis un peu tombée dedans un peu par hasard ou par chance, on va dire. Et j'ai découvert ce monde, cet univers-là passionnant finalement, très très passionnant parce que beaucoup de relations humaines, parce que un peu au cœur d'enjeux stratégiques sectoriels, parce qu'il y a énormément de choses à faire et je dirais il y a beaucoup de quand vous êtes capable de d'avoir des idées et des projets qui sont sympas, quand vous avez une gouvernance qui marche bien, en fait c'est des métiers qui sont extraordinaires parce que voilà, la satisfaction qu'on a à faire un projet individuel, c'est très bien, c'est une satisfaction personnelle. Mais quand on arrive à faire aboutir un projet collectif, la satisfaction, elle est démultipliée par 1000, ou je ne sais pas si on peut donner un chiffre, mais en tout cas, c'est un vrai kiff, si je peux utiliser ce mot-là, quand on arrive à faire que il y a une décision collective et quand on arrive à faire qu'un projet collectif il aboutisse. Et ça, sur le plan motivation, c'est un vrai plaisir pour moi.
Vous trouvez que c'est un métier où on est assez isolé par rapport aux décisions? On est, comme on le disait tout à l'heure, un peu le trait d'union entre des élus, une équipe de collaborateurs. C'est un métier où on est assez isolé. D'ailleurs, c'est aussi un des maîtres mots du CEDAP, c'est le collectif et la convivialité. Pour nous, c'est important. Vous trouvez dans vos fonctions un peu isolé ou pas?
Alors, c'est un métier où on peut se trouver isolé, comme tout directeur. Mais j'ai envie de vous dire que le sujet de l'isolement, il se traite assez facilement si on a d'une part une gouvernance qui fonctionne bien, parce avoir un conseil d'administration qui donne des orientations et qui fonctionne bien, en fait, aide beaucoup le délégué général, le directeur général de l'association à faire correctement son métier. Il y a un sujet de proximité, évidemment, avec le président qui compte.
Oui.
Et puis, il y a la façon dont on s'entoure, en ce qui me concerne.
Au niveau de votre équipe.
Au niveau de l'équipe. En ce qui me concerne, sur 84 collaborateurs, c'est vrai que c'est une équipe qui est lourde à gérer avec des enjeux.
En région, vous avez des permanents en
politiques.
Région.
Alors, il y a 110 collaborateurs en région.
D'accord.
On fait tous partie d'un réseau, mais qui ne sont pas directement rattachés
au
niveau national. Hein, donc au total, c'est 200 collaborateurs, totalité de la coopération agricole. Pour te dire, il faut bien s'entourer, en fait. Il faut savoir bien s'entourer, avoir un comité de direction qui fonctionne, et je dirais, ça va.
Vous parliez un peu de votre président, c'est un président. Justement, est-ce que c'est facile d'avoir des bonnes relations avec son président et son bureau? Comment vous y arrivez, justement?
Alors, est-ce que c'est facile? Ça dépend évidemment
de l'élu,
l'élu qu'on a. Je pense que ça s'entretient.
D'accord.
Ma conviction profonde, c'est que ça ne s'improvise pas.
D'accord.
Avoir des bonnes relations avec son élu, quelle que soit sa personnalité, c'est quelque chose qu'on doit entretenir en tant que directeur général ou délégué général. Ça veut dire faire des points réguliers, ça veut dire le mettre au courant, ça veut dire créer une vraie complémentarité, puisqu'il y a vraiment un rôle politique d'un côté et un rôle opérationnel de l'autre. Et ça, chez nous, à la coopération agricole, c'est très ancré, en fait, parce que c'est le cœur même et l'ADN de nos coopératives. C'est bien des conseils d'administration, d'agriculteurs politiques et des directeurs généraux qui sont là pour faire l'exécution opérationnelle.
D'accord.
Je pense qu'un des facteurs clés de la réussite d'une association professionnelle repose sur les mêmes principes, à savoir des élus qui s'occupent de politique et des opérationnels qui s'occupent d'opérationnels. Et la distinction est fondamentale à mon sens. Et chez nous, c'est vraiment, pour le coup, le cœur même du bon fonctionnement de nos coopératives. Et je pense qu'ils sont des entreprises collectives, en fait, hein, qui font du collectif. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à déployer avec, enfin, en tout cas, à déployer, à appliquer en tant que directeur d'organisation professionnelle.
Et concrètement, parce qu'on a envie de savoir, votre président, vous le voyez chaque semaine, comment ça se passe?
Alors, à la coopération agricole, on a un président qui est très présent, donc qui est présent trois jours par semaine, qui vient de son agriculteur, hein, qui vient de son exploitation, qui est administrateur d'une coopérative qui s'appelle Terena, et qui vient passe trois jours par semaine sur Paris parce que c'est aussi notre porte-parole. Donc, qui est amené à faire pas mal d'interventions, notamment dans le métier que nous avons, hein, qui est le métier d'interface avec les pouvoirs publics. Et puis un métier de communication aussi dans les médias. Donc oui, on le voit souvent, et moi je fais des points très réguliers, et dès que j'ai besoin, on s'appelle, il m'appelle, et on est chacun dans notre rôle. J'ai un président qui est très exigeant sur ce sujet-là, et je pense que c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur de travailler dans des conditions comme celle-là, quand les choses sont claires, clairement
établies. En tout cas, je pense qu'il sera ravi de l'entendre, en tout cas. On a parlé de votre situation professionnelle, votre métier de directrice générale, on va passer un peu sur la partie un peu plus personnelle. On ne va pas revenir sur votre parcours. Vous êtes ingénieur agro, vous êtes venu par chance, et j'aime bien par chance et pas par hasard, dans les organisations professionnelles. Est-ce que ça vous laisse du temps pour un peu avoir des passions, et quels sont un peu vos hobbies?
Alors, du temps pour les passions, c'est beaucoup d'engagement. Hein. Être dans une association professionnelle et alors travailler avec le monde agricole, qui est un monde qui est souvent sujet à des crises. On n'imagine pas, hein, c'est des secteurs qui sont tellement tributaires d'aléas qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà, sur la viticulture, par exemple, quand il y a un coup de grêle, vous pouvez perdre. Vous pouvez avoir des agriculteurs qui perdent du jour au lendemain 50% de leur production, mais derrière, vous avez des CAF coopératives qui, elles, se retrouvent effectivement avec la moitié des volumes à commercialiser en moins. Ou un autre exemple, hein, sur le haricot vert, par exemple, l'année dernière, sécheresse, 50% de production en moins. Une grosse coopérative qui produit aujourd'hui des boîtes de conserve avec des haricots verts bretons s'est retrouvée du jour au lendemain à avoir 50% de ses approvisionnements en moins, donc 50% de ventes en moins.
Donc ça veut dire que ces sujets-là, vous le traitez aussi sur votre
Exactement,
temps.
Ça fait partie de notre métier. Notre métier, c'est aussi ça, c'est aussi de regarder comment est-ce qu'on peut épauler, appuyer les coopératives, et puis aller chercher des fonds d'indemnisation qui existent. Hein. Donc notre métier, c'est aussi d'aller chercher ces fonds d'indemnisation-là, ou pour les coopératives, ou pour les agriculteurs.
Alors vos passions et vos hobbies?
Alors passion et hobby, donc très engageant comme métier, passion et hobby, plutôt des passions qu'on ne peut faire que le week-end. Alors, voilà, moi je suis une nageuse.
Ça peut être aussi en fin de journée.
Hein. Oui, ça peut aussi être en fin de journée, mais chez nous, on a beaucoup de dîners aussi régulièrement le soir pour régler certains sujets. Ça se traite souvent autour d'une table.
Hein.
Mais non, moi je suis une nageuse. Hein. J'ai toujours été. Voilà, j'ai fait un peu de compétition quand j'étais plus jeune. Et donc, je garde un attrait pour l'eau que je pratique de temps en temps le week-end. Quand je peux. Et puis sinon, j'adore lire, et ça, c'est facile.
D'accord.
C'est une passion qui est facile parce que ça se transporte. Ça peut s'amener dans dans une poche, dans un. Et je lis tout. Voilà, j'aime lire. Et je trouve qu'en termes de passion, c'est une passion qui est facile à exercer dans les métiers qu'on a.
Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, que vous aimeriez nous évoquer?
Alors, dans les sujets qui...
Un sujet qui vous parle et vous aimeriez justement... on parle de hobby, de vos passions, et on a des fois des sujets... alors, ça peut être dans le cadre de votre fonction de directrice générale, ou ça peut être aussi à côté?
Alors, sujet... Enfin, moi, je préfère garder un sujet qui est lié au métier que j'ai. Il y a un sujet qui m'intéresse, évidemment en particulier, c'est... en fait, il y en a deux, mais je vais vous en donner un qui me motive plus particulièrement. C'est la capacité à faire monter les jeunes générations et à leur donner confiance en elles, et notamment les jeunes femmes.
D'accord.
C'est un point voilà qui me tient à cœur parce que au cours de ma vie professionnelle, j'ai aussi vu beaucoup de jeunes femmes qui arrivent avec un vrai handicap qu'elles se posent elles-mêmes, hein, à elles-mêmes, c'est leur questionnement par rapport à leur capacité à gérer vie professionnelle et vie personnelle. On n'a pas toujours la... Moi, j'ai eu 4 enfants, j'ai jamais arrêté de travailler, et ça n'a pas toujours été simple, parce que l'univers... n'était pas toujours facile. Et l'univers de l'entreprise n'est pas toujours facile. Mais néanmoins, je pense que les principales barrières que se mettent les femmes, ce sont elles-mêmes qui se les posent. Je suis fondamentalement convaincue de ça.
D'accord.
Et donc, il faut parfois arriver à les encourager, à leur dire c'est possible, et finalement arrêter de vous faire une montagne de choses qui n'en sont pas. Vous n'êtes pas... Et ce n'est pas parce que vous avez des enfants ou charges de famille ou autre que ça doit vous limiter ou vous restreindre. Donc ça, c'est un sujet qui m'a suivi.
Que vous faites dans votre propre organisation professionnelle ou vous avez, comme on parle, de mentorat ou en fait en dehors de votre activité?
Alors, un peu de mentorat, oui, mais voilà. Et puis dans l'organisation professionnelle, oui, être capable de mettre en
place
avant
les moyens pour qu'effectivement femmes puissent évoluer.
Oui, bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire que c'est exclusif. Hein. Ça veut dire que j'ai aussi des hommes qu'il est nécessaire de faire... en tout cas, à qui il faut donner confiance. Mais avoir des potentiels qui ne s'expriment pas parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables, c'est quelque chose qui, moi, me touche au cœur. Et je pense que dans notre mission de directeur, si on a la possibilité... essayer de les faire, leur faire croire en eux, même, c'est un vrai bon point.
Merci Florence. Vous êtes venue avec un collaborateur. Bienvenue Thibaut Bussonnière. Je vous propose de... Alors, tout à l'heure, j'ai pris ma respiration pour dire votre titre. Est-ce que vous pourriez justement nous en dire un peu plus sur les fonctions que vous exercez au sein de la coopération agricole?
Bonjour Hervé, merci pour l'invitation. Je suis très heureux de participer à cette émission avec Florence. Plus simplement, je suis en charge de ce qu'on appelle des affaires publiques, qui peut se résumer à d'autres intitulés, c'est-à-dire en lien avec les parlementaires et les cabinets ministériels. Je suis un peu l'interlocuteur des pouvoirs publics au sein de la coopération agricole. L'idée, c'est de faire passer, de traduire nos messages auprès de ce personnel politique.
Vous avez énormément de rendez-vous politiques, je suppose, par rapport à la tête de l'organisation ?
Alors, on est une organisation, en effet, importante, parce que dans le secteur alimentaire, on représente 40% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire et une marque sur 3. Vrai qu'on est sollicité beaucoup par les pouvoirs publics dans un certain nombre d'auditions, à la fois dans des ministères, au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Donc, notre président, qui, comme Florence le rappelait, est notre porte-parole, est présent à ces réunions-là, et mon rôle est d'accompagner mon président, de préparer aussi un certain nombre de rendez-vous et de fixer la ligne avec Florence sur un certain nombre d'éléments que l'on souhaite après déployer lors de ces réunions et de messages qu'on souhaite faire passer au personnel politique.
Merci. Pour quelles raisons vous avez choisi de rejoindre cette association professionnelle ?
Alors, j'ai découvert l'univers des associations...
Par chance aussi, vous ?
Non, pas par chance. Pas par chance. Je l'ai découvert lors de mes premières expériences professionnelles, notamment en cabinet d'avocat. Je suis juriste de formation.
D'accord.
Et je travaillais dans un cabinet d'avocats qui avait l'opportunité d'accompagner des organisations professionnelles et qui les conseillait notamment sur des consultations qui étaient organisées par les pouvoirs publics sur l'élaboration d'un certain nombre de textes. Et à cette occasion, je me suis dit, finalement, c'est quand même plus sympa de réfléchir à l'élaboration de la loi, surtout dans le secteur alimentaire, plutôt que de rédiger des contrats à longueur de journée ou de faire du contentieux. Donc, assez naturellement, après cette expérience en cabinet d'avocat, j'ai été frappé à la porte de quelques organisations professionnelles, dont la coopération agricole. Et assez sans hésitation, assez naturellement, j'ai choisi la coopération agricole, qui s'appelait Coop de France à l'époque, c'était il y a 5 ans. Parce que le modèle coopératif, pour moi, était aussi vecteur de sens.
D'accord.
Et aligner en quelque sorte mes convictions personnelles avec mon quotidien. En tout cas, je l'imaginais comme ça et ça s'est effectivement traduit comme ça au quotidien. C'est très important pour moi d'être aligné personnellement et professionnellement, surtout dans un métier comme ça de plaidoyer, de défense, de lobbying, pour raconter un message, il faut croire à ce qu'on dit. Donc pour moi c'est vraiment très important. Et ce modèle coopératif, on entend peu parler finalement pendant les études supérieures ou même dans le cadre de diverses expériences professionnelles qu'on peut avoir. Il est assez méconnu et en fait il est quand même très important dans le cadre de l'économie. Et au moment de la crise financière de 2008, à ce moment-là, il y a eu quand même pas mal de médias qui se sont emparés du modèle coopératif comme un peu un exemple à un capitaliste qui serait un peu moins financiarisé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis intéressé à ce modèle-là et je me suis dit, je peux retrouver mes valeurs dans ce type d'entreprise et c'est ce que je retrouve au quotidien à la coopération agricole parce que Florence le rappelait tout à l'heure, on a un président qui est agriculteur,
oui.
Qui est présent dans nos locaux 3 jours par semaine. On a des présidents aussi de filières, des vignerons, des céréales, des métiers des laits, du lait, pardon.
Des viandes
qui sont aussi présents avec nous. Donc c'est très agréable au quotidien de travailler avec des vrais gens, avec des entreprises qui ne sont pas désincarnées, qui sont inscrites sur les territoires. Donc on sent, il y a un lien de proximité qui est très agréable au quotidien et qui permet de m'éclater au quotidien dans mon boulot véritablement.
Je retiens la quête de sens, c'est effectivement intéressant. Et quelles sont les synergies que vous avez pu développer avec votre directrice générale?
Alors,
elle est en face de vous, hein, vous pouvez tout lui dire.
Oui,
hein.
Oui. Pour créer des synergies, faut créer de la confiance.
Oui.
Donc ça se crée au quotidien. J'ai eu la chance aussi de travailler depuis 5 ans à la coopération agricole avec d'autres personnes qui ont aussi pu me montrer comment il fallait se positionner vis-à-vis de la direction générale ou de la présidence. Donc c'est aussi important d'apprendre finalement aux côtés des autres, d'observer, je suis très observateur, et puis après de faire aussi à sa sauce, de déployer. Et mon rôle auprès de Florence et de Dominique, on va dire que ça peut être un rôle d'alerte, d'essayer d'identifier les signaux faibles, de filtre aussi, parce que Florence l'a dit, l'activité en organisation professionnelle à la coopération agricole et l'activité de Florence et Dominique, chargée de notre président, est presque démentielle, c'est du 100% presque 7 jours sur 7. Donc il faut savoir aussi faire le filtre et apporter les éléments essentiels à la direction générale et à la présidence et ne pas se noyer forcément dans des détails, sans oublier les signaux faibles qui sont aussi primordiaux.
Et une dernière question pour vous, dans une perspective d'évolution professionnelle, vous aimeriez-vous également être directeur général d'une organisation professionnelle ?
Alors, pourquoi pas ? Parce que c'est aussi un métier où on est en interface, oui, avec les pouvoirs publics et également, bien entendu, avec tout l'écosystème des autres organisations professionnelles d'un secteur. Après, je pense que j'ai beaucoup de choses encore à apprendre sur le management des équipes. Donc je suis à bonne école.
Merci en tout cas, merci aux invités, merci pour ces échanges francs et sincères et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Vie ma vie de DG.
Vie ma vie de DG, une émission proposée par le CEDAP.
À retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.